dans l'actualité des idées aujourd'hui, de la haine des médias à la haine dans les médias, de la défiance envers les journalistes à la polarisation des débats. Avec nos invités, le sémiologue François Jost, il est fondateur du Centre d'études sur l'image et le son médiatique, le séisme, professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle. Il vient de publier « Médias, sortir de la haine » au CNRS édition, 2 ans après la méchanceté en acte à l'ère numérique. Il interroge dans ce livre, ce nouveau livre, le rejet actuel des médias, jugés trop proches du pouvoir par certains ou des intérêts économiques pour d'autres, et pas seulement. Bonjour à vous, François Jost.
Bonjour.
À vos côtés, l'historien Gérard Noiriel, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, spécialiste de la classe ouvrière, de l'histoire de l'émigration. Vous avez publié l'an passé « Le venin dans la plume » de Drumont à Zemmour, cette part sombre de la République que vous explorez dans cet ouvrage paru à la Découverte, où vous analysez aussi la grammaire identitaire du pamphlétaire, considéré comme le père de l'antisémitisme, ça c'était Drumont, et du polémiste, ça ce serait Zemmour. Bonjour à vous, Gérard Noiriel.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Une première question sur cette lettre, cette tribune, cette lettre ouverte qui a été publiée cette semaine. Ensemble, défendons la liberté. Pour la première fois, une centaine de médias français se sont unis pour défendre la liberté d'expression à l'initiative du directeur de la publication de Charlie Hebdo. On est en plein procès des attentats de 2015 aussi en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment, François Jost, vous qui avez analysé, exploré le champ médiatique depuis des années et tout particulièrement encore pour ce nouvel ouvrage, Médias, sortir de la haine, avez-vous le sentiment d'une liberté d'expression qui serait en train de se rétrécir?
Oui, absolument. Et je dirais, qu'est-ce qui a changé? J'ai travaillé dans un livre précédent sur Harakiri, ce qui a précédé Charlie Hebdo. Et Harakiri faisait une satire, dans les premiers numéros, faisait une satire très très violente de la société qui a amené le pouvoir à l'interdire, et puis ensuite est né justement Charlie Hebdo, etc. Mais la grande différence, c'est que la censure venait d'en haut. Aujourd'hui, on a une censure qui, j'allais dire, vient d'en bas. C'est-à-dire que c'est le public lui-même qui censure les propos ou les dessins des journalistes. C'est donc toute la différence. C'est-à-dire que par les réseaux sociaux, notamment, ce qui est dit par un journaliste ou par un penseur ou par un dessinateur peut être censuré par les gens même à qui c'est destiné. C'est plus du tout la même chose.
Gérard Noiriel.
Oui, je crois qu'il y a des mutations qui sont extrêmement importantes, et comme toute mutation, elles sont contradictoires. Par le fait, faudrait donc analyser ce qu'on appelle liberté d'expression, parce que justement, les réseaux sociaux ont permis aussi de diffuser une parole qui nous plaît pas forcément toujours, mais qui existe, et qui effectivement va dans des sens contradictoires avec des pressions comme vous le disiez, qui sont réelles. Donc voilà, il faut faire face à ces problèmes-là, sans les dramatiser non plus. Enfin, je veux dire, voilà, la question de la liberté d'expression, après, elle pose qui a accès à l'espace public, enfin, toute une série de problèmes que on essaye de traiter, nous, en tant que chercheurs. Mais oui, il est bon d'être toujours vigilant, d'ailleurs, sur cette question de la liberté d'expression, donc aujourd'hui particulièrement, oui.
Mais vous diriez qu'aujourd'hui, certaines opinions n'ont pas le droit de citer, ou plus le droit de citer ? Gérard Noiriel.
Ben, opinion, moi je crois que non, je dirais pas que des opinions n'ont plus le droit de citer. Elles peuvent être contestées, elles peuvent être... Mais je vous dirais que ça concerne même notre travail, on en parlera peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, il est très difficile même de se dire, attention, je fais mon métier de chercheur sur des thèmes comme ça. Mmh. Parce qu'aussitôt, ce que vous écrivez est approprié par un camp et par un, ou par un autre, et vous êtes donc disqualifié, je dirais, en tant qu'intellectuel ou que chercheur essayant de comprendre le monde. Vous voyez, donc pour moi, évidemment, de mon point de vue socio-historien, c'est ça le plus problématique. Donc il y a cette dimension-là qui est souvent occultée et qui ne vient pas uniquement d'en bas. Hein, il faut bien le dire quand même. Elle vient aussi de la part d'une certaine fraction des journalistes qui sont voilà dans les polémiques, qui sont structurés par des hebdomadaires, etc.
Enfin, que vous placez donc en haut. Hein. Si vous dites que ça ne vient
par rapport à ce qu'on appelle en bas, pour moi en bas, c'est ceux qui n'ont pas accès à l'espace public,
hein,
ceux qui.
Oui, le terme n'était pas très bon. Oui, je pense qu'on a compris l'idée, mais le terme n'était pas très bon. Mais je crois que la différence, surtout, c'est que s'il y avait de la censure avant et s'il y en a encore aujourd'hui, la différence c'est la haine justement. C'est-à-dire que la contestation d'une opinion passe par des appels, des menaces de mort, un appel à la violence, à des insanités. Donc ça peut sans doute ça existait avant, mais on ne le voyait pas.
Voilà, ouais. Je pense que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ce qu'on appelait autrefois les propos du commerce, vous savez, oui. Café du commerce, c'était dans l'interaction donc entre des personnes comme ça, par la parole, je dirais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont étendu ce cercle et donc donnent une dimension publique par le fait. Donc ça, je crois que ça a changé beaucoup de choses et voilà, c'est une des contradictions qu'on doit affronter, je pense, aujourd'hui.
Aujourd'hui aussi, du coup, la télévision, qui était jusque-là le média de référence, et notamment pour cette expression de la parole, comme lieu du débat, a dû se repositionner et se poser un certain nombre de questions. Y a-t-il encore du débat à la télévision ? N'y a-t-il plus que de la polémique ? Je vous propose qu'on rentre en son dans cette question.
Autour de la table, les éditorialistes, doit-on réduire l'immigration ? Il y en a deux qui disent oui. Je pense que c'est un petit oui pour Éric Nolot. Un plus grand oui.
Un oui.
Un oui pour André Bercoff.
Pas,
André Bercoff,
pas,
oui.
Pas massif, mais oui, absolument.
Oui, pourquoi ?
Et si on allait au-delà de ces postures ? Et si on allait au-delà des faciles incantations ? Si on plongeait dans la réalité des rapports sociaux ? Si on retournait dans l'histoire de la nation française.
Vous laissez parler les gens, il y a beaucoup de gens qui sont scientifiques et qui sont climato-sceptiques.
Mais ça n'existe plus.
Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine.
Je n'ai pas fini. Est-ce mais c'est rétrograde, on peut pas laisser dire ça.
Et alors, eh bien, vous allez quand même me laisser le dire parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord.
Mais en fait, vous êtes dingue.
D'accord, vous pouvez m'insulter.
Vous pouvez m'insulter, mais vous allez quand même me laisser dire.
Il y a beaucoup de gens qui pensent pas comme vous, madame, et qui ne sont pas
d'accord. Ça suffit, vous n'allez pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui vous plaît pas.
Mais vous êtes, on est au 21e siècle.
Mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspect.
Appeler ses enfants Swellen ou Mohamed, c'est un signe manifeste d'auto-ségrégation.
Très suspect.
Qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l'on subit.
Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. On vous écoute, Alain Finkielkraut.
Il y a 20 ans, donner la parole à des opinions de droite, voire d'extrême droite, à des personnalités, des porte-paroles du Front National, des personnalités comme Jean-Marie Le Pen, débattre avec eux, ça posait question. On se disait encore, fallait-il l'inviter ? Peut-on discuter, débattre avec un homme comme Jean-Marie Le Pen, un homme politique comme lui, confronter ses opinions dans ce cadre-là ? Aujourd'hui, les porte-paroles du Rassemblement National sont des invités comme les autres, au nom du pluralisme, souvent, et de la liberté d'expression. Est-ce que une bascule s'est faite à un moment donné pour vous, François Jost, et si oui, quand ?
Oui, on peut dater, effectivement. Jusqu'en 2001, Le Pen se plaignait de ne pas être invité, c'est vrai, je l'ai vérifié, il n'était pas invité. Et puis, à partir du moment, en 2001, non, à partir du moment où les régionales ont vu le Front National pas mal arriver, le CSA a recommandé, en fait, qu'on invite aussi les gens du Front National. Et on a vu, là, après, une explosion avec... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'an 2000, Le Pen avait fait une conférence pour montrer combien les médias étaient à proscrire, à haïr, etc. Notamment parce qu'il parlait d'un effet de clan, il disait que c'était des gauchistes, etc. Et toutes ces choses qu'il avait dites se sont retrouvées dans les discours d'autres hommes politiques à partir de la campagne de 2007. Ça s'est banalisé de dire que les médias étaient des puissances d'argent qui manipulaient les gens, etc. Et on a vu de plus en plus inviter des gens du Front National. En 2015, Florian Philippot a fait 65 matinales. En 2015. En 2017, vous aviez Florent Philippot 135 émissions dans l'année, Nicolas Dupont-Aignan 105, Nicolas Beck 98, Alexis Corbière 92 et Castaner 84. Donc on voyait que les extrêmes étaient de plus en plus invités parce que ils pouvaient être repris, marquer le débat, etc.
Au fil aussi du poids qu'ils ont pris pris dans les urnes, Gérard Noiriel. Vous trouvez ou vous pensez qu'aujourd'hui l'époque est assez propice à cela, à cette ouverture, multiplication de la parole?
Oui, je crois qu'il y a des mutations qui sont incontestables, qui se sont traduites au niveau de la technologie par la multiplication des chaînes d'infos en continu, de la TNT aussi, c'est-à-dire des chaînes gratuites où du coup, il faut faire des émissions qui coûtent pas cher. Et donc, ce qui marche le mieux, c'est la polémique. C'est ça parce que c'est relayé après par les réseaux sociaux, etc. Et c'est dans ce contexte-là que des polémistes comme Éric Zemmour, par exemple, se sont imposés alors qu'ils avaient déjà eu une carrière avant, enfin, quand... J'ai essayé de retracer très rapidement, à partir des éléments qu'on a, l'itinéraire d'Éric Zemmour. On voit bien qu'au départ, c'est un journaliste, voilà, enfin, lambda, qui n'est pas spécialement marqué. Et c'est lors de ses passages à la télévision, comme polémiste, qu'il se révèle un talent qui est adapté à la conjoncture. Et ça, c'est intéressant, parce qu'historiquement, on peut faire le parallèle avec Drumont dans un autre contexte. Mais qui est le point commun entre la fin du 19e siècle et l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est des mutations technologiques très importantes au niveau de l'industrie de l'information. À la fin du 19e, c'est la naissance de la presse de masse. Donc, on a un extraordinaire développement du marché, et donc toute une série de règles qui changent. Et c'est dans ces moments-là qu'on a... nouvelle personnalité qui s'impose. Donc au-delà des politiques, je dirais, encartées, il y a cette diffusion, effectivement, qui est relayée par un certain nombre de polémistes qui ont l'art de s'affronter. On en a eu un exemple dans ce que vous nous avez passé tout à l'heure. Voilà. Et face auquel on est, nous-mêmes, qui croyons encore à l'exercice de la raison et l'échange d'arguments, complètement impuissants.
Cette multiplication des chaînes d'information, François Jost, bataille des audiences qu'elle se livre aussi, ça contribue à la virulence des débats pour vous ?
Oui, parce que en fait, il faut rappeler que ces chaînes d'information, avec d'abord France Info, la radio, et puis ensuite l'arrivée sur la TNT ça s'appelait pas CNews, mais enfin des différentes chaînes d'information. Au départ, ces chaînes d'information, c'était des chaînes qui donnaient un bulletin d'information régulier. Il y avait un cycle qui revenait, et puis il y avait des chroniques avec différents thèmes, etc. Ça n'est que 2007, je crois, qu'on a commencé à mettre des débats. Il n'y avait pas de débat au départ. Il y avait simplement un retour du même, et puis des chroniques différentes, etc. Et le problème dans un premier temps, je dirais que les chaînes d'information, elles étaient faites pour picorer. On arrivait à 3 heures chez soi, on écoutait ce qui s'était passé, etc. Ensuite, le problème a été de garder les gens, les auditeurs, les spectateurs, et donc de fabriquer des histoires, de rajouter du récit, c'est-à-dire que toute nouvelle qui n'était pas transformable dans le temps était éliminée. Et puis on a ajouté du débat, parce que le débat permet de combler les trous entre deux nouvelles informations, si tant est qu'elles soient nouvelles. Et donc, c'est avec cette arrivée des débats, il y a quelques années, en fait, l'orientation des chaînes, la mise en avant du commentaire, de petits mots, de petites phrases, de tweets qui ont été envoyés, ont commencé à s'installer et à devenir de plus en plus prégnants.
Avec des débats courts et du coup l'importance de rétablir un clivage net et franc entre les interlocuteurs.
Absolument, oui. C'est-à-dire que on voit ces chaînes dire qu'il y a des débats, mais en fait on voit très vite que ce ne sont pas des débats, ce sont des polémiques. C'est une grande différence parce qu'un débat c'est organisé et dirigé selon la définition, alors que la polémique évidemment c'est violent et c'est guerrier. Et donc en fait on n'a pas l'émission de Pascal Pro le matin est typique de ça, et on a entendu dans l'extrait très très bien, c'est celui qui crie le plus fort qui peut gagner, avec ce que Schopenhauer expliquait pour clouer le bec à l'autre, ça peut être de l'empêcher de parler, tout simplement, et c'est une des recettes qui est le plus employée sans doute dans l'émission de Pascal Pro. Et donc voilà, on a dénaturé le débat en tant que tel pour en faire simplement une joute.
Mais vous dénoncez quand même, ou vous pointez François Jost dans ce livre, le calcul marketing de ces chaînes. Pourquoi et oui. Comment expliquer en tout cas le succès d'audience, parce que les choix sont justes en termes d'audience, de ces discours droitiers, un peu réac ou ultra-conservateurs.
Il faut rappeler que c'est pas vraiment des succès d'audience. C'est-à-dire que ça fait 400 000 personnes et je crois que vous en faites beaucoup plus. Donc c'est plutôt des succès de part d'audience. C'est-à-dire que pour une période donnée, à une heure donnée, ces chaînes prennent une grande part de l'audience. Alors je pense qu'il y a un calcul effectivement très cynique, parce que finalement certaines chaînes s'adressent plutôt à des intellectuels, des gens qu'on classe à gauche, etc. Alors que là, il y avait tout un public, disons qu'une trentaine de pourcents de gens qui vont de la droite à l'extrême droite, qui n'avaient pas finalement un lieu où ils pouvaient se reconnaître. Et ces chaînes ont absolument, de façon très cynique, ciblé un public qui est chez soi le matin et un public qui revient le soir vers 7 heures, qui est capable, qui n'avait pas son expression sur des problèmes d'identité, de d'immigration, etc. Et il y a une sorte de ressassement continuel de ces problèmes sur ces chaînes, et donc elles sont étendues. Il faut rappeler quand même que ces chaînes travaillent sur 2-3% d'audience. Donc si on peut avoir gagné 100 000 spectateurs, c'est absolument considérable et c'est donc assez facile.
Gérard Noiriel, polémique cathodique contre débat critique, on ne va pas refaire le match ici parce qu'il est perdu d'avance, semble-t-il. Mais est-ce que vous diriez que c'est le propre du polémiste, c'est qu'il a toujours raison ?
C'est-à-dire que moi j'essayais aussi de comprendre la réception, parce que quand vous êtes face à des discours que vous trouvez ineptes, bon, moi j'ai surtout travaillé sur les... J'ai été courageux, hein. J'ai lu de A à Z les livres d'Éric Zemmour qui se prétend historien. Je veux dire, les bras vous en tombent quand vous avez fait ne serait-ce que quelques années d'études historiques sérieuses, que vous croyez au métier d'historien fondé sur l'archive, etc. Donc on se demande, comment se fait-il qu'il y a des gens qui peuvent quand même adhérer à ça, croire à cela, etc. Et c'est important de se le dire pour ne pas les mépriser, vous comprenez ? Parce que ça, c'est... Voilà, il faut respecter aussi les publics et se dire ces gens ont des raisons. Donc c'est ça que j'ai essayé de comprendre en analysant notamment les réactions sur les réseaux sociaux des gens qui sont fanatiques de Zemmour. Et on voit effectivement qu'il y a une logique d'identification. C'est très fort. C'est pas de la raison, c'est l'identification. Et il s'identifie à quoi ? Quelqu'un qui se présente très souvent comme une victime. Très important, vous voyez. Zemmour, c'est d'ailleurs une des difficultés qu'on peut avoir si on débattre avec lui et qu'on lui dit « vous racontez n'importe quoi », la réponse, ça peut être « ah oui, vous me prenez de haut, vous me méprisez ». Donc tout le côté qu'on trouvait déjà chez Drumont, « moi je viens du peuple », on met en avant ses origines populaires, et vous êtes l'élite, les intellectuels, voilà, bien pensants, à la solde, etc., etc. Ça peut fonctionner chez un public. Je dis pas que c'est le seul public, hein, mais il y a un public, disons, populaire, qui est très éloigné de notre univers, etc., et qui va adhérer à cela. Donc ça, c'est un ressort très fort. Un autre ressort que j'ai constaté, qui est traditionnel, je veux dire, qu'on pourrait remonter très loin, c'est le jouer sur la tragédie, le côté tragique, l'apocalypse. Si vous ne nous suivez, le « eux » et « nous », il y a « eux » et « nous ». Nous, on est les pauvres Français, malheureux, victimes des migrants, etc. Et si vous ne m'écoutez pas, moi qui vous dis la vérité, eh bien, nous allons à la catastrophe. Ça, c'est typique chez Drumont, hein, déjà. Et on le retrouve aujourd'hui chez Zemmour. Quand vous lisez ses livres sur l'islam, c'est ça qui est dit. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre, je ne vais pas tous les analyser, mais des ressorts comme ça, qui jouent sur l'affectif et qui peuvent avoir un impact chez des personnes. Et du coup, c'est très difficile de répondre à ça par des arguments rationnels. Donc, des gens cherchent à être confortés dans ce qu'ils croient confusément, mais qui est exprimé aussi publiquement, qui donne donc une légitimité, puisque c'est exprimé publiquement sur une chaîne, des chaînes télé qui sont reconnues, etc. Vous voyez, il y a tous ces mécanismes qui sont présents et qui rendent difficile la riposte.
Voilà, Éric Zemmour sur CNews ou RTL qui incarne cette tendance, d'autres diraient cette dérive. Vous soulignez l'un et l'autre, et vous à l'instant, Gérard Noiriel, le rôle capital de la rhétorique, cet art de la persuasion, de cette grammaire dont les règles ont été établies bien plus tôt par un certain Drumont, notamment à la fin du 19e, cette rhétorique identitaire. À qui parle-t-elle à vos yeux, François Jost ?
Vous savez, aujourd'hui, Il y a une sorte de, moi je parle du populisme de façon très très simple. Le populisme, c'est se réclamer du peuple, c'est lutter contre le système, et ça s'est totalement étendu. C'est-à-dire que si le populisme, ce populisme tel que je le définis, était l'apanage des Le Pen, j'allais dire de la famille Le Pen, ça s'est étendu dans les dernières élections présidentielles, chacun ayant son couplet contre le système. Donc très généralement, ces discours s'adresse à des gens pour qui tout est fautif dans le système. Et c'est d'ailleurs très étonnant, très paradoxal, quand on pense à Zemmour, de penser que cet homme a été fait par les médias. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière véritablement comme sniper, comme on dit, hein, c'est-à-dire comme chargé de descendre les gens avec des valeurs très très accentuées, très 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 fortes. Et il lutte sans arrêt contre les médias. C'est quand même assez risible, d'une certaine façon, de l'entendre dire sans arrêt des choses contre les médias alors qu'il y est absolument constamment. Et Gérard Morel disait tout à l'heure quelque chose de très juste sur le fait qu'il n'est pas historien, mais dans sa rhétorique, c'est très important, l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai regardé récemment le débat qu'il a opposé à Antoven, et il n'a dès le départ, il l'a situé dans une position d'infériorité par rapport à lui qui connaît l'histoire. Mmh. Et pour les gens à qui il s'adresse, un universitaire peut dire c'est vraiment pas de l'histoire, je pense que pour le public, c'est une certaine vision de l'histoire qui est tout à fait recevable. Je pense que le public a une vision de l'histoire qui est quand même plus près de Stéphane Bern que de Gérard, que de Bourdelle, par exemple.
C'est une des recettes du succès, de rendre difficile la riposte, hein, pour l'interlocuteur. Mais vous dites fait par les médias. D'autres pourraient vous renvoyer aujourd'hui, François Jost, que les éditorialistes d'hier, ceux qui prêchaient la bonne parole, progressistes, étaient aussi des produits médiatiques. Hein.
Alors, je cherche quels sont les produits médiatiques. Oui, je pense peut-être... j'allais dire Daniel Cohn-Bendit qui faisait des éditoriaux, mais je ne sais pas si on a des exemples de gens qui sont nés par les médias de cette façon-là.
Bah, Éric Zemmour était quand même journaliste aussi à l'origine.
Oui.
Oui, un Christophe Barbier, je ne sais pas, un Laurent Geoffrin, oui. Ceux qu'on entendait avant sur les plateaux de télévision et qui étaient peut-être des paroles privilégiées par rapport à celles que vous pointez du doigt aujourd'hui, à ces discours droitiers.
Oui, non,
c'est plus polémiste.
La différence, c'est peut-être que ceux que vous citiez ne passent pas leur temps à dénoncer les médias. Je crois que c'est chez Zemmour, c'est cette articulation constamment entre les deux, une dénonciation du monde qu'il a fait. Quoi.
Mm-hmm. Non, mais vous avez raison. C'est vrai que ces éditorialistes de gauche, entre guillemets, ont d'autant plus donné une justification à CNews pour dire, vous voyez, il y a des gens qui ne s'adressent pas parce que il n'y a pas que Geoffrin, etc. Et donc, on a monté cette figure. Vous, je ne sais pas si vous avez vu que à la rentrée, normalement, il ne va plus y avoir de débat avec Zemmour parce que la chaîne trouve qu'il n'y a plus de gens à sa hauteur.
Donc c'est quand même... C'est ce que disent aussi les gens qui les adeptent sur les réseaux sociaux, ne cessent de dire ça.
Voilà,
que personne n'est né à sa hauteur.
C'est quand même extraordinaire de penser qu'on en a... c'est pas le débat qu'on a créé, c'est qui peut se battre contre... Vous savez, un peu comme les boxeurs, effectivement, ils remettent leur titre en jeu.
Voilà.
Mais d'ailleurs, peut-on encore débattre à la télé, invité jusqu'à 13h30 le sémiologue François Jost et l'historien Gérard Noiriel. France Culture, il est 13h19.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et d'ailleurs, cette question, elle n'est pas nouvelle. Bourdieu, Cavada, ils se la sont posée, ils en ont discuté. La télé peut-elle jouer un rôle et permettre la confrontation? On les écoute.
Nous sommes dans un pays qui est ossifié, dangereusement, à mon avis, menacé par le fait que les idées ne se comparent, ni ne s'analysent, ni ne se confrontent. La télévision ne peut pas faire le rôle des livres, mais elle peut jouer un rôle dans la confrontation. La confrontation, pour moi, c'est pas le cirque. Mais si vous refusez le débat d'idées, qui comprendra vos idées? Qui comprendra si vous avez raison ou tort? Et si les formes que nous proposons ne sont pas les bonnes, pourquoi donc? Pourquoi n'adapterait-on pas à votre demande une... réforme pour avoir le cadre de ce que vous avez à dire.
Oui, je pense qu'un des problèmes majeurs qui se pose et à la démocratie et à la recherche, c'est l'instauration de lieux où on puisse discuter dans des conditions telles que la discussion soit rationnelle. Bon, or, je peux dire que dans l'état actuel, il n'y a pratiquement pas de situation à la télévision qui soit de ce type.
Voilà, la question était déjà posée. Est-ce que la télé est la bonne arène ou la bonne agora pour tenir un vrai débat, Gérard Noiriel?
François Jost, spécialiste, parce que voilà.
Moi, je pense que qu'effectivement, d'abord, la situation a largement changé. Bourdieu est aussi celui qui est un de ceux qui a lutté pour que Arte existe avec la 7 d'abord. Donc, je pense que la question est posée depuis très longtemps par les dirigeants de la télévision. Est-ce que l'image ne gêne pas quand on veut suivre une discussion? On s'attache au vêtement de la personne qui parle, etc. Et donc, c'est vrai que la vitesse aujourd'hui qui est demandée dans les médias fait que rentrer dans une position même nuancée est difficile, puisqu'on sait bien que quand on fait un plateau, à la télévision, justement, on prend des gens dont on sait qu'ils vont s'opposer, et même dont on sait quelle position ils vont tenir. Moi, il m'est déjà arrivé dans des interviews filmées que ma position soit déjà définie par le journaliste et que le montage soit déjà fait quasiment et qu'il suffise de rajouter la phrase qu'on attendait de moi. Donc, effectivement, on est dans une difficulté pour discuter longuement et avec des nuances.
La fabrique de l'opinion, Gérard Noiriel, est-ce qu'il faut déplorer la Lepénie et la zémorisation de la vie politique et médiatique, pour reprendre les termes de Michel Obono, la députée France Insoumise, qui a été caricaturée récemment en esclave par Valeurs Actuelles?
Disons que moi, j'ai, de par mon expérience personnelle, considéré, ça fait très longtemps, qu'on ne pouvait pas nous transmettre le savoir qui est issu de notre travail par le biais de la télévision, mais il faudrait aussi poser le problème pour la presse écrite, etc. Il y a une autonomie des champs, donc il y a des revues savantes, etc. C'est pour ça que moi, je me suis engagé une dizaine d'années j'ai créé une association d'éducation populaire et dans une réflexion sur la traduction, c'est-à-dire la transposition du savoir qu'on produit dans des langages qui soient accessibles à des gens qui, de toute façon, quel que soit le média qu'on leur proposera, ne suivront pas des analyses compliquées de recherche, etc. Donc pour moi, je crois beaucoup plus à cette dimension-là, qui nous interroge nous-mêmes en tant qu'intellectuels, en tant que chercheurs, de façon à toucher des publics plus larges. Parce qu'autrement, j'ai peur qu'on finisse par vouloir imposer notre propre univers, vous voyez, de rationnel, etc., et en pointant la responsabilité de la télévision ou d'autres médias. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai jamais beaucoup aimé l'expression « lepénisation des esprits ». Enfin, on a tellement entendu depuis les années 80, à chaque fois qu'on fait faire le jeu de Le Pen, faire le jeu de ceci, cela. Je crois que les gens sont un peu saturés de cela. Il y a des évolutions, on a essayé d'en parler ici, qui sont liées à l'évolution donc aussi des réseaux sociaux, etc., qui banalisent la polémique, qui donnent une importance plus grande à tout ce qui est de l'ordre émotionnel, dans une logique aussi, il faut voir aussi l'impact publicitaire. On n'a pas beaucoup parlé de la publicité, mais enfin, pour faire de l'audience, on a toutes ces logiques-là. Mais en même temps, il y a aussi des espaces où on peut discuter. Les réseaux sociaux apportent aussi beaucoup dans la réflexion, dans la diffusion. Donc tout ça est très, très contradictoire. Donc je ne porterai pas un jugement définitif sur la situation actuelle.
Donc vous, Gérard Noiriel, vous n'iriez pas débattre avec Éric Zemmour, mais on ne va pas focaliser sur lui non plus, avec l'un de ceux qu'on appellerait aujourd'hui un polémiste? Ce n'est pas le bon.
Je l'ai écrit d'ailleurs dans le livre que je refusais ce genre de choses, parce que c'est du cirque, c'est pas de la discussion.
François Jost, les journalistes, comme ceux qui ont accès aux médias, doivent s'interroger, à vous lire aujourd'hui quand même aussi, sur la faiblesse de leur rôle. C'est fini, le contre-pouvoir?
Oh, écoutez, je ne sais pas si ça a été vraiment un contre-pouvoir chez nous. Je mets l'accent sur ce livre, dans le premier chapitre, sur le fait que c'était surtout vraiment la voix du pouvoir, la voix de la France, comme l'a dit Pompidou, le président Pompidou à un moment. Et donc, il faut savoir quand même d'où on vient. C'est-à-dire que, en fait, on a parlé, on a commencé avec la censure, mais pour être un petit peu optimiste, je dirais que la liberté dont disposent les journalistes aujourd'hui est infiniment supérieure à celle qu'on a connue jusque sous De Gaulle, pour être clair. Rappelons-nous que c'était le ministre de l'Information, Alain Perfit, qui visait le conducteur des journaux télévisés avant qu'on fasse le journal télévisé, que c'est le même Alain Perfit qui est venu présenter la nouvelle version des actualités du journal télévisé face à Léon Zitrone, qui ne pouvait rien dire et qui a expliqué qu'il fallait moins en moins de commentaires parce que le commentaire était vu comme quelque chose de très dangereux pour le pouvoir. Les historiens ont montré que, par exemple, certains ministres intervenaient dans des scénarios de films pendant les années 60 pour faire passer un certain nombre de choses. Donc, et les années 80-90, nous avons eu les grands trusts, Hersant, Dassault, etc., qui étaient ouvertement pour le pouvoir en place et qui disaient très ouvertement qu'ils étaient prêts de toutes les manières à aider le pouvoir en place. Donc, je crois qu'il faut pas oublier ça. Alors aujourd'hui, la plupart des journalistes que je rencontre me disent qu'ils n'ont pas tellement l'expérience d'être guidés par le pouvoir. J'ai quand même tendance à les croire. Donc ils ont un rôle, mais je crois que la chose la plus importante que j'essaye de dire dans ce livre aussi, c'est être dans une éthique de la responsabilité. C'est-à-dire que il faut parfois, alors je m'en prends notamment à l'histoire de Rugy, où on a, à partir de quelques images qui n'étaient preuve de rien, on a considéré que tous les jours, pratiquement, le président de l'Assemblée nationale faisait des festins, et on a réussi à le mettre dehors pour gagner quoi ? Pas grand-chose. On a juste perdu un ministre qui connaissait bien l'écologie.
Voilà, ça c'est votre point de vue. En tout cas, sens de la responsabilité, c'est un appel que vous lancez, entre autres, dans cet ouvrage sur la question de la haine des médias à la haine dans les médias. Médias sortir de la haine, il paraît, au CNRS édition. Merci beaucoup à vous, François Josse. Merci Gérard Noiriel d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre-essai, Le venin dans la plume, paru l'an passé à la Découverte. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Auriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table culture. Merci beaucoup à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide précieuse. À la réalisation, c'était Thomas Beau avec Valentin Bobineau, Juliette Gréco. On dit adieu aujourd'hui, jeudi 24 septembre, à une grande dame de la chanson et du cinéma.
L'automne est entré un soir tout à coup. Il a poussé la fenêtre. Brusquement, le vent souffla comme un fou et des feuilles mortes volèrent partout. J'ai compris que l'été avait pris fin. Qu'il faudrait nous quitter le lendemain, et pour très longtemps, peut-être. Lorsque septembre vient.